Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Viele Menschen in diesem Land fühlen sich offensichtlich nicht ausreichend gesehen oder gehört oder beides. Und wir werden eine andere Kultur brauchen, eine andere Gesprächskultur, eine Politik, die sich...
Bonjour à tous. 31 026 électeurs tout juste ont fait la différence. Le suspense aura duré toute la journée de lundi. C'est donc finalement Alexander Van der Bellen, soutenu par les Verts, qui a remporté de justesse l'élection présidentielle en Autriche face au candidat d'extrême droite, Norbert Hofer. Face au risque de voir le candidat anti-Europe et anti-immigration l'emporter, les électeurs se sont mobilisés avec une participation en hausse. Les autres partis n'avait donné aucune consigne de vote, mais les ténors avaient clairement fait savoir quel était leur choix. Entre soulagement et déception, Céline Béal, à Vienne, est allée recueillir les réactions des électeurs autrichiens.
Moi et la plupart de mes collègues, on travaille dans une entreprise internationale. Nous sommes évidemment très heureux que Van der Bellen ait gagné. Nous espérons que ce sera un nouveau cap en Autriche, et que l'ouverture sur le monde, pour laquelle l'Autriche est bien connue, va continuer à exister comme elle a toujours existé.
Je suis déçu. J'aurais souhaité que M. Hofer soit président. Il est tout simplement plus proche des gens. Je trouve que Van der Bellen est un peu supérieur, arrogant. Ça me le rend antipathique. Je ne suis malheureusement pas allé voter. J'étais au travail.
On devrait déjà avoir appris quelque chose du petit bonhomme marron que nous avons déjà eu. Je veux parler d'Hitler. C'est une bonne chose d'avoir élu Van der Bellen. Je crois qu'il peut faire quelque chose en Europe. C'est un homme très intelligent, c'est ce que j'apprécie chez lui.
Je pense qu'on a laissé passer notre chance pour cette fois. Notre victoire aux prochaines législatives n'en sera que plus éclatante. Mais dans l'immédiat, ce qui va se passer, c'est que ni le gouvernement ni ce président-là ne vont soucier de l'autre camp. J'en suis sûr à 100%, parce qu'un gouvernement, chez nous, ne réagit que sous la pression, jamais de lui-même. Donc 50% des Autrichiens ne vont pas se sentir écoutés.
Et si l'agriculture permettait aussi de sauvegarder l'environnement et de lutter contre le glissement des sols, si elle se révélait aussi un formidable rempart contre la spéculation immobilière. C'est presque un conte de fées qui se déroule sur la sublime côte amalfitaine en Italie. Les citrons d'Amalfi qui se sont vus attribuer par l'Union européenne une indication géographique protégée sont désormais des atouts pour la sauvegarde d'un paysage unique. Reportage sur place, signé Mathilde Villain.
Amalfi. Rien que ce nom exhale un parfum de citron. Et la côte amalfitaine, c'est bien un jardin d'Éden accroché à une falaise. Un paysage célèbre dans le monde entier pour ses façades colorées, son eau turquoise et ses terrasses d'arbres fruitiers. Pas n'importe lesquels, les citronniers d'Amalfi sont une variété unique au monde. Et ils ont façonné l'histoire, la vie et la gastronomie locale, comme le raconte Rina, habitante d'Amalfi.
Le citron, pour nous, c'est la vie. Je fais des limonades pour mes hôtes, je mets du citron partout dans mes plats. Je les utilise pour tout, pour les desserts, pour les poissons au four. Je sers même la mozzarella sur des feuilles de citronnier. Vous pensez que ce n'est rien ? En vrai, ça change tout.
À l'ombre de ces citronniers en fleurs, Marco Risi, producteur de citrons d'Amalfi, aime à son tour raconter la même histoire à tous les touristes qui participent à son Lemon Tour, une visite guidée de ses vergers.
Nous sommes nés dans les citrons. Mon grand-père était l'homme de confiance des nobles. Il était responsable de la production des citrons ici en Italie et cette production était ensuite envoyée à l'étranger. À l'époque, le premier choix était exporté. Seuls les rebuts restaient ici. Alors mon père et mon oncle ont commencé à les commercialiser sur les marchés nationaux en Italie et puis avec mes frères, nous avons repris derrière lui. L'activité a débuté en 1927. Nous en sommes à la troisième génération.
Per arrivare ad oggi.
Venite, venite, venite.
400 hectares de surface cultivée pour 8000 tonnes de fruits produits par an, le citron est un véritable trésor pour la côte amalfitaine. Trésor sans doute ramené de Jérusalem à l'époque des croisades. C'est ce que nous raconte Sarah, guide touristique.
Des touristes israéliens nous ont raconté qu'ils produisaient une variété de citron très similaire. Ce qui a du sens, parce que selon des historiens d'Amalfi, nos citronniers auraient été importés de Jérusalem à l'époque des croisades. Les arbres ont ensuite trouvé ici un terrain fertile et un climat idéal.
La côte amalfitaine est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ces citrons ont obtenu l'appellation européenne indication géographique protégée en 2001. Et en 2002, 250 producteurs environ se sont réunis en consortium. Ensemble, ils peuvent ainsi accéder au crédit et s'imposer sur le marché, tout en garantissant le respect du paysage et de la tradition. Angelo Amato est l'actuel président du consortium de protection des citrons d'Amalfi.
C'est notre or jaune. L'histoire raconte que cela fait plus de 1200 ans que cette culture s'est enracinée dans cette région. Nous n'avons pas de concurrence, c'est une production de niche. En termes de qualité, c'est un produit unique au monde.
Un produit unique, mais qui demande aussi des sacrifices. Ici, les agriculteurs ne doivent pas seulement descendre les caissons de citron sur leur dos jusqu'au pied des terrasses, ils doivent aussi veiller attentivement à la santé de leurs vergers et reconstruire patiemment le moindre muret qui s'effondre. Angelo Amato.
Nous, les agriculteurs, nous sommes les sentinelles de la côte amalfitaine. Nous prenons soin du territoire. Si nous ne produisions pas de citron, si nous n'entretenions pas les vergers ici, il y aurait des glissements de terrain.
Cultivateur de citron d'Amalfi, un travail donc presque héroïque, désormais reconnu, y compris par les institutions, comme essentiel pour la valorisation de la côte amalfitaine. Daniele Milano est maire d'Amalfi.
Il y a une sensibilité toujours plus marquée de la part de la population envers l'agriculture, l'entretien des terrasses. Ces jardins de citronniers ne sont plus seulement considérés comme des gouffres financiers, mais comme un moyen de prévenir les risques de glissement de terrain. Nous savons tous ici qu'un jardin abandonné peut devenir un risque pour la sécurité au moment des fortes pluies. Nous, nous avions mis en tête de notre programme électoral la protection de l'agriculture et du territoire. Jamais auparavant, elle n'avait été considérée comme moyen de prévention du risque.
La certification des citrons d'Amalfi a permis aussi de contrer les appétits des promoteurs immobiliers, pourtant alléchés par les centaines de milliers de touristes du monde entier qui chaque année viennent goûter au farniente et siroter un limoncello sur les plages de la côte amalfitaine.
Y a-t-il une fuite des cerveaux en France et est-elle pire que chez nos voisins européens? Il y a quelques jours, une étude du Conseil d'analyse économique s'appuyant sur des chiffres de l'OCDE, de l'INSEE et du ministère des Affaires étrangères est venue apporter des précisions intéressantes et parfois inattendues sur le sujet. Daniel Vigneron du site myeurope.info a analysé toutes ces données pour nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Pour commencer, sait-on combien de Français vivent à l'étranger?
On n'a pas de chiffres précis, mais l'INSEE évalue entre 3,3 et 3,5 millions le nombre de personnes nées en France et résidentes à l'étranger. En majorité, ce sont des actifs âgés de 25 à 55 ans. Par comparaison, en 2010, on estimait à 4 millions le nombre de Britanniques vivant à l'étranger. Pour les Allemands, on ne dispose que du chiffre des expatriés vivant dans les pays développés de l'OCDE, 3,4 millions en 2011. Si l'on y ajoute les Allemands vivant dans les pays hors OCDE, on ne devrait pas non plus être loin des 4 millions. Quant aux Italiens, ils étaient, estime-t-on, 4,1 millions à vivre hors d'Italie en 2011. Première conclusion, il y a plus d'expatriés chez nos voisins qu'en France.
Et comment s'opère le mouvement des expatriés entre les 5 pays les plus peuplés d'Europe ?
Oui, l'Institut Eurostat a calculé ces chiffres. Un peu plus de 3 millions de Français, Italiens, Allemands, Britanniques et Espagnols vivaient en 2011 dans l'un des 4 autres grands pays d'Europe. Les plus nombreux à s'expatrier sont les Italiens, plus de 1 million, et ils le font en grosse majorité vers l'Allemagne, puis vers l'Espagne et la France. Britanniques et Allemands sont respectivement 675 et 630 000 à vivre dans l'un des 4 pays voisins, surtout au Royaume-Uni pour les Allemands, en Espagne pour les Britanniques. Quant aux Espagnols, 330 000 s'expatrient d'abord en France, puis en Allemagne. Enfin, les Français sont 395 000, ce qui est de loin le chiffre le moins élevé des 5 pays européens par rapport à la population. Ils se répartissent en parts presque égales entre Royaume-Uni, Allemagne et Espagne.
Et dans le monde et en Europe, où s'établissent en priorité les Français ?
Alors pour vous répondre avec précision, Frédéric, je dois me référer au registre du ministère des Affaires étrangères qui ne prennent en compte que les Français enregistrés dans les consulats à l'étranger, soit une grosse moitié des nationaux expatriés. En 2013, le principal pays étranger de résidence pour les Français était la Suisse, avec 163 000 résidents enregistrés. En majorité, il s'agit de frontaliers de ce pays, habitant pour des raisons diverses de l'autre côté de la frontière. Viennent ensuite les États-Unis, 129 000, et juste derrière, le Royaume-Uni, 126 000. La Belgique est en quatrième position, 115 000, pour des raisons évidentes de langue et de proximité, mais aussi sans doute pour des raisons fiscales. 47% des Français listés par les consulats dans le monde le sont dans un pays européen. Et parmi eux, nos concitoyens choisissent la proximité, puisque 9 sur 10 résident dans un pays limitrophe à la France. Outre les États-Unis, les principaux pays d'accueil non européens sont pour les Français le Canada, Israël et le Maroc.
Et qu'en est-il de ce phénomène de fuite des cerveaux ?
Il est toujours difficile à quantifier. Avant tout parce que l'expatriation de nature économique traduit plusieurs types de motivations qui peuvent se cumuler. Besoin d'acquérir une expérience étrangère ou d'apprendre une langue, perspective d'embauche favorable au niveau du salaire ou des conditions de travail, meilleure valorisation des compétences, environnement propice à l'entrepreneuriat ou à la recherche, fiscalité attractive, etc. Ce que l'on peut faire pour tenter de cerner ce que l'on qualifie de façon un peu caricaturale de fuite des cerveaux, c'est de comparer les taux d'émigration par pays des plus de 25 ans ayant un haut niveau de qualification. À partir des chiffres du programme de l'OCDE sur l'immigration, on peut faire des comparaisons de 1980 à 2010, plus récentes données disponibles malheureusement. En considérant les 5 pays d'Europe les plus peuplés, plus les Pays-Bas et la Suède, on observe qu'à l'exception de l'Espagne, la France est le pays qui compte le plus faible taux d'émigration des adultes hautement qualifiés.
Et c'est vraiment très net.
Oui, c'est très net. Il y a 5% d'émigration qualifiée quittant la France. Ce taux est de 6,5% en Suède et de 9,6% aux Pays-Bas. Ce sont certes de petits pays où partir à l'étranger est beaucoup plus naturel, mais les résultats des grands pays vont dans le même sens. 7,7% des Allemands qualifiés s'expatrient, 9% des Italiens et, tenez-vous bien, près de 17% des Britanniques. Pour ces derniers, bien sûr, l'attraction des États-Unis est très forte.
Faut-il dire que ceux qui s'alarment de la fuite des cerveaux français ont tort ?
Ils ont tort dans la mesure où le départ à l'étranger des adultes qualifiés est moins fort, voire nettement moins fort en France que dans les autres pays. En réalité, la France demeure un pays très attractif du fait de la qualité de son environnement, de ses infrastructures, de ses services publics et de sa couverture sociale et de santé. Cela dit, on doit quand même observer un phénomène qui n'est pas neutre. En 30 ans, tous les pays européens précités ont vu diminuer le taux de leur immigration qualifiée. À l'inverse, en France, il est passé de 3,9 à 5%, ce qui traduit une inversion de tendance ces dernières années. Ensuite, la part des émigrés qualifiés quittant la France est plus élevée qu'ailleurs. 44% contre 39% au Royaume-Uni, 37% en Allemagne et seulement 17% en Italie. Enfin, des chiffres Eurostat nous indiquent qu'en 2014, les émigrants âgés de 20 à 29 ans étaient 155 000 venant de France, mais seulement 84 000 venant d'Allemagne et 27 000 venant d'Italie.
Et pour conclure, Daniel ?
La France ne connaît pas de fuite des cerveaux. En revanche, plus qu'ailleurs, notre pays voit partir des jeunes en cours ou en fin de formation, attirés certainement par un accès plus facile au marché du travail ou à la création d'entreprises.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
C'est une toute autre manière d'envisager la famille. À Berlin, une dizaine de sites de coparenting ont vu le jour. Le coparenting répond à une idée simple, faire un bébé et fonder une famille avec un ami et non avec son amoureux. Chacun garde son indépendance mais se retrouve autour des enfants. Dans un pays comme l'Allemagne où l'âge de la première grossesse, 31 ans, ne cesse de reculer et où il est toujours aussi difficile de concilier carrière et famille, ce modèle commence à séduire même s'il reste marginal. À Berlin, Julien Méchaussi a rencontré Elena et Julien, deux nouveaux parents qui sont juste copains.
Nous sommes dans le quartier de Neukölln, dans une aire de jeu sur la Wechselplatz. Je viens souvent ici, la garderie de Lilo est juste à côté. Et une fois que je suis allée la chercher, on vient jouer ici pendant une ou deux heures.
Aujourd'hui, Elena s'occupe des deux enfants. Lilo, 2 ans, en juin prochain, qui joue dans le sable avec ses copains et copines de la garderie. Et Yuri, le petit dernier de 3 mois, bien au chaud dans l'écharpe porte-bébé. Julien, le papa français de Lilo et Yuri, est encore au travail.
Julien, c'est le père de mes enfants et un bon ami. Je dis toujours que nous ne sommes pas un couple, mais un couple de parents. En fait, nous fonctionnons comme un couple séparé qui s'entend très bien. Nous faisons beaucoup de choses ensemble, avec toujours le bien-être des enfants au premier plan.
Elena et Julien ont bien, un jour, été en couple, mais cela n'a duré que quelques semaines. Ils sont restés proches et partagent le même cercle d'amis. Ils se retrouvent lors d'une fête et Julien évoque pour la première fois l'idée d'avoir un enfant ensemble, avec en arrière-plan la quarantaine qui approche et sans relation amoureuse. S'en suivent plusieurs semaines de réflexion, amis, frères et sœurs sont consultés.
Mes parents et ceux de Julien trouvent ça bizarre. C'est une génération pour qui les enfants naissent d'une relation amoureuse. Comme ils voient que nous nous entendons super bien, ils nous demandent encore aujourd'hui pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Mais ils sont tellement heureux avec leurs 2 petits-enfants que ce n'est plus très important pour eux. S'ils ne comprennent pas notre modèle, ils l'acceptent. Ils voient que nous sommes heureux comme ça et c'est le plus important.
Avec la naissance de Yuri, Julien a emménagé pour 6 mois chez Elena. Il dort dans la chambre de Lilo. Quand Elena arrêtera d'allaiter Yuri, il retrouvera sa colocation et prendra les enfants plusieurs jours par semaine. Il n'y a pas de règle écrite entre eux, tout s'est mis naturellement en place.
La seule chose qu'on s'est dite et la seule chose qui est importante, c'est le fait de vivre proche l'un de l'autre. C'est que ça, c'est un modèle qui n'est pas possible si moi je veux retourner à Paris. Parce qu'on est obligé maintenant de vivre dans la même ville. Donc là, on habite l'un à côté de l'autre. Et pour moi, c'est très important.
Avec leurs 2 enfants en bas âge, les journées de Julien et Elena sont bien remplies. Il n'y a pas de place pour commencer une aventure avec une autre personne. Mais ce ne sera pas toujours le cas.
L'idéal, c'est que elle se retrouve quelqu'un et que moi je me retrouve quelqu'un et qu'on s'entende bien tous les quatre et qu'on puisse faire des vacances ou des week-ends ensemble avec encore d'autres personnes, pas forcément, mais ça serait très difficile si son copain ou ma copine ne peut pas me voir ou voir Elena. Enfin, ça compliquerait beaucoup les choses alors que là pour l'instant elles sont assez simples.
Est-ce que le modèle que vous avez choisi, c'est un modèle qui permet d'avoir les avantages d'être en couple sans les défauts, c'est-à-dire d'avoir une certaine liberté en tant que personne?
Je pense. Je garde la liberté, avoir un inconnu avec des rencontres que je peux avoir, des potentialités de me dire je vais tomber amoureux et je serai très content avec cette personne. Tout le temps. Elena, sera toujours là pour moi et inversement. Donc j'ai une vie de famille. C'est une famille sans amour, mais très proche, très, très complice.
Pour les sociologues qui se penchent sur le sujet, outre la difficulté de trouver l'amour et fonder une famille, l'une des grandes motivations de ce modèle est la liberté qu'il offre. Une vie de famille sans être en couple, cela signifie que l'on s'épargne les disputes du quotidien. La garde alternée permet de souffler et de faire face au manque de place en crèche. Et comme le dit Elena, l'arrivée de Yuri est bien la preuve que leur décision a été la bonne.
J'ai déjà 41 ans et nous voulions tous les deux avoir un second enfant. Et le temps que je rencontre quelqu'un, que je tombe amoureuse et que nous ayons un enfant ensemble, ça aurait pu prendre quelques années. C'était donc plus simple de le faire avec Julien.
Mais après 2 années rythmées par les grossesses et l'allaitement, Elena et Julien se languissent de retrouver un peu de liberté. Le troisième n'est donc pas pour tout de suite.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.